Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette émission spéciale sur Bac FM, à l'occasion de la Fête de la Science. Alors aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Gaëtan Mollet, médiateur de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun, SNHA, et à l'Observatoire de la Faune de Bourgogne. Je me présente, moi c'est Léon, élève de terminale à Raoul Follereau.
Et moi je suis Pauline Oukidja, également en classe de terminale. Monsieur Mollet, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, première question, selon vous, quel est l'intérêt majeur d'une manifestation comme la Fête de la Science ?
Eh bien, ça permet de partager des savoirs, dans un premier temps, et de permettre aussi de faire découvrir des bestioles comme la Cistude d'Europe.
Participez-vous à d'autres événements permettant de promouvoir la science ?
Oui, tout à fait. Prochainement, je serai à Festigru pour reparler de la Cistude. Et sinon, on participe de temps en temps, on fait de la science. On a le jour de la nuit prochainement. Et sinon, on fait des ABC, on fait pas mal de choses, nuit de la chauve-souris, etc.
D'accord. Pourriez-vous nous décrire votre métier en deux phrases ?
Alors, mon métier, ça va être de transmettre les savoirs. C'est-à-dire, par exemple, je vais aller dans une classe, leur présenter une thématique ou une bestiole en particulier, que ce soit la cistude ou la loutre d'Europe ou les chauves-souris. Et ça va être transmettre les savoirs, transmettre ce que fait la SHNA sur le terrain et montrer aux gens ce qu'on fait pour la biodiversité, pour la nature sur le territoire de Bourgogne.
Au niveau de vos études, vous avez suivi quelle formation ?
Alors, j'ai fait, au niveau bac, j'ai fait un bac technologique agricole. J'étais en STAV, c'est sciences et technologies de l'agronomie du vivant, spécialité AVE, donc c'est aménagement et valorisation des espaces. Ensuite, j'ai fait un BTSA, gestion et protection de la nature. Et en dernier, en licence, j'ai fait licence pro, écotourisme et découverte de l'environnement.
Et qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans le domaine de la biologie ?
C'est une passion avant tout. Okay. Je vais faire un peu cliché, hein, mais depuis que je suis tout petit, les petites bestioles qui marchent un peu partout, c'est fort intéressant. Et après, les différentes expériences, ça permet de guider un peu l'avenir, on va dire.
Durant votre parcours, est-ce qu'il y a un mentor, un professeur qui vous a marqué ?
Pas tant que ça. Après, j'ai interagi avec beaucoup de professionnels, donc c'est surtout eux qui m'ont guidé dans mon parcours professionnel. Et... Non, j'aurais pas de nom qui me vienne en tête comme ça.
Mais du coup, pourquoi être devenu médiateur scientifique ?
Eh bien, c'est pour être honnête, c'est en répondant à une offre d'emploi. De base, moi, je suis éducateur à l'environnement et j'ai voulu chercher à travailler sur un plus grand territoire et avoir plus de responsabilités. Donc, le poste de médiateur, c'est un peu le grade du dessus. Donc, voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Et j'ai été pris, donc tant mieux.
Super. Où vous travaillez ?
Alors moi je travaille à Saulieu. Nous on est la Société d'Histoire Naturelle d'Autun. Notre siège social est à Autun, mais nos bureaux, les principaux bureaux sont à Saulieu. Donc c'est à peu près 2 heures d'ici. C'est à l'est du Morvan. On est encore dans le Morvan, dans le PNR du Morvan, mais on est à l'est. Et sinon on a une autre antenne avec des collègues à Chalon-sur-Saône et une pas trop loin à la Charité-sur-Loire.
Et du coup, est-ce que on peut considérer ça comme un métier passion ?
Tout à fait, c'est un métier passion. C'est pas un métier où on va gagner des milliers et des cents. C'est surtout un métier où on va pouvoir rencontrer des gens, rencontrer des professionnels, des acteurs du territoire et surtout transmettre des passions et surtout des connaissances que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ou même d'observer juste les bestioles de leur jardin ou dans la rue, parce que généralement nos jardins sont assez riches. Donc voilà, ça peut être un truc comme ça.
Comment vous avez découvert les associations pour lesquelles vous travaillez aujourd'hui ?
Alors, pour le fait de la SHNA, c'est par un collègue que j'ai maintenant, que je suivais un peu avant, pendant mes études. C'est un entomologiste, donc c'est Mathurin Carnet, qui est à la Charité-sur-Loire justement. Et voilà, et après sinon, c'est par le biais des réseaux, réseaux sociaux, on va se dire... Et puis des sorties nature, des choses comme ça, des conférences et tout comme ça.
Quelles sont les compétences nécessaires pour votre métier ?
Alors pour mon métier spécifiquement, ça va être de savoir parler à un public sans trop stresser. Donc ça va être pouvoir gérer sa flot de parole, pouvoir parler sans micro, justement, avec la conférence sera micro, mais je peux faire sans, donc pas de problème. Donc ça va être ça, pouvoir connaître les classes, un peu les programmes. Avoir la patience, parce que des fois, avoir la patience avec les gens et être passionné parce que ce qu'on fait et puis avoir envie de transmettre, parce que sinon, ça sert à rien, quoi.
Est-ce que vous venez de citer un inconvénient, est-ce qu'il y a d'autres inconvénients et d'autres avantages à votre métier ?
Alors là, sur mon poste, l'inconvénient majoritaire, ça va être le nombre de kilomètres. Donc on fait beaucoup, beaucoup de routes parce qu'on est sur le territoire de la Bourgogne et de temps en temps, on va du côté d'Auxonne, on va du côté de Migennes ou Auxerre, que ce soit ici à Nevers par rapport à notre lieu de travail. Mais bon, ça fait découvrir le territoire, et puis c'est quand même pas mal, on voit des beaux paysages. Là, en plus, c'est l'automne, donc c'est plutôt sympa.
Donc là, vous venez nous présenter les 6 studs, mais est-ce que dans le futur, vous aimeriez développer ou faire des recherches sur un autre sujet ?
Moi, avec mon métier, c'est surtout du coup la transmission de données. Ceux qui vont surtout faire les recherches, ça va être mes collègues. Donc moi, je suis un scientifique entre guillemets.
Ouais.
Donc je fais quand même partie du monde scientifique, mais je suis là pour transmettre. Après, là, je parle beaucoup de taxons. Les taxons, c'est les groupes d'animaux. Donc ça va être la loutre, les chauves-souris, les papillons, les libellules. Donc voilà, ça va être des groupes de taxons. Après, un taxon que j'aimerais étudier, ce seraient les coraux, mais bon, par ici, il n'y en a pas trop, quoi.
Justement, au niveau des 6 studs, qu'est-ce qui vous a amené à les étudier ?
Alors, j'ai été amené à les étudier, c'est grâce au PNA 6 Studs d'Europe. Donc, c'est un programme national, donc c'est financé par l'État. On appelle ça les fonds verts. C'est des fonds financés par l'État, comme je disais. Enfin, en gros, c'est nos impôts qui les financent. Et donc voilà, j'ai été amené à étudier cette bestiole-là et puis transmettre les connaissances et les actions de la SHNA sur le territoire pour ça, en fait. Voilà, c'est grâce à ce fonds-là, ce fonds gouvernemental, que je fais ça.
Et donc, aujourd'hui, quelles sont les menaces qui peuvent peser sur les 6 studs d'Europe ?
Alors, les menaces, ça va être beaucoup anthropique, donc à cause de l'homme, de l'être humain. Ça va être les collisions routières, quand elles vont changer un peu d'espace. Ça va être les pollutions de l'eau, vu qu'elle est semi-aquatique, ça va être là. On va avoir aussi les destructions d'habitats, le parcellement des corridors écologiques, que ce soit les ruptures ou par exemple du parcellage, enfin des trucs comme ça. Et après, on peut avoir aussi encore, on est toujours assez surpris, mais il y a toujours du braconnage, même en France. Donc voilà, il peut y avoir ça comme menace. Et après, on a aussi les espèces exotiques envahissantes, que ce soit le ragondin, la tortue de Floride, voilà, d'autres bestioles qui peuvent être envahissantes et du coup conquérir son territoire à sa place.
Est-ce que vous avez des méthodes particulières pour suivre les populations de 6 studs ?
Alors, dans les méthodes de suivi, on va avoir juste de l'observation à vue. Quelqu'un qui va être sur un bateau avec une longue vue pour observer justement les 6 studs quand elles sont en insolation. En fait, elles se mettent en surface sur un rocher ou un bout de bois au soleil pour se réchauffer, vu que c'est des reptiles. On va avoir aussi la capture, marquage, recapture. En gros, le principe, c'est on va capturer des 6 studs avec des filets adaptés. On va les attraper avec, bien sûr, il faut des autorisations. On va les marquer. On va limer un peu leur carapace selon un certain code. Et après, on va les relâcher. Quelques années plus tard, on va les recapturer, voir comment elles vont, niveau taille, niveau poids, etc. Et pouvoir suivre comme ça les populations.
Est-ce que, justement, en étudiant cette espèce, vous avez pu faire des découvertes surprenantes ou bien inattendues ?
Moi, ça va être surtout au niveau bibliographique ou en interrogeant les collègues. Ça va être les différences mâles et femelles. On va dire la femelle, elle a les yeux verts. Et le mâle, il a les yeux orange feu. Donc c'est assez surprenant qu'on le voit comme ça. Bah, juste une différence entre les deux. Après, le fait qu'il y ait des tortues en Bourgogne, des tortues semi-aquatiques en Bourgogne, c'est déjà pas mal. Et que ce soit vraiment une espèce menacée, qu'on n'en ait vraiment pas beaucoup, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres collaborations internationales ou bien nationales autour de la 6 studs d'Europe ?
Oui, entre les herpétologues. Donc les herpétologues, c'est ceux qui vont s'occuper des reptiles, amphibiens. Là, il y a des colloques entre eux. Ils vont se faire des formations en interne, que ce soit avec des organismes un peu plus hauts. Je ne saurais pas dire les noms, mais des plus gros organismes. Voilà, là par exemple, j'ai les collègues, ils étaient la semaine dernière en formation pour bien manipuler les 6 studs, etc. On vient pour les étudier.
J'imagine que vous mettez des actions de protection, de conservation pour justement protéger cette espèce ?
Oui, en fait, les populations de 6 studs sont présentes majoritairement chez des privés, donc c'est sur des étangs. et ça va être un travail avec eux pour, par exemple, faire des fauches pas sur les périodes de reproduction ou de ponte. Ça va être retarder, on va dire, des curages d'étangs, parce que l'hiver, elle se met dans la vase, elle se met en léthargie dans la vase, au fond des étangs, et généralement, à cette période-là, c'est où il y a les curages. Donc, ce serait dommage d'embarquer quelques cistudes dans la benne. Donc voilà, ça va être des échanges, de l'information, et voilà, certaines fois des aménagements, comme replanter des nénuphars, de la roselière. Donc voilà, ça peut être des aménagements comme ça.
Et est-ce qu'avec ces actions, vous avez déjà pu observer des résultats concrets ?
Oui, des retours de population sur des endroits où on en voit plus, majoritairement. Après, nos sites en Bourgogne se font de plus en plus rares. Pour l'instant, on va dire qu'il y a plus de présence sur les étangs où elles sont présentes déjà. Mais après, qu'il y ait des nouveaux étangs, pour l'instant, pas trop.
Pourquoi pensez-vous que partager ces résultats scientifiques, c'est important ?
Eh bien, ça permet de sensibiliser le grand public, de leur dire, regardez, vous avez une petite tortue qui est fort adorable. Ce serait sympa de la protéger parce qu'elle nous sert quand même à nous, parce qu'en la protégeant, elle, on va protéger les autres espèces présentes dans son milieu naturel, que ce soit la faune ou la flore. Donc ça peut être intéressant, juste en protégeant celle-ci, de protéger les autres derrière. Donc voilà, que ce soit les membres des chaînes alimentaires ou de son régime alimentaire. Elle.
Et donc justement, est-ce que les autres espèces au niveau du Morvan se trouvent particulièrement en danger ou...
Alors on a eu des protections plutôt dans les années 80 au niveau de la faune. La loutre d'Europe, par exemple, elle a failli disparaître dans les années 70 de Bourgogne et de France, carrément. Là, elle est revenue, elle regagne son territoire. Le castor, c'est pareil, castor d'Europe. On pense souvent au castor américain, au canadien, mais nous, on a du castor aussi en Europe. Il va y avoir aussi pas mal d'espèces, on va dire, des lépidoptères, donc des papillons. Vous avez pas mal d'entomologie, des insectes, des arthropodes. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Des chauves-souris. Bon, les chauves-souris, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Les populations ont tendance à diminuer à certains endroits, revenir à d'autres endroits. Donc voilà, ça dépend un peu. On perd des gîtes d'été, que ce soit du bâti ou des arbres ou des cavités. Donc voilà, les populations ont tendance à baisser, mais des fois monter. Donc c'est un peu les montagnes russes, un petit peu. Donc voilà. Mais on est quand même dans une belle descente niveau, on va dire, richesse naturelle, comme un peu partout.
Comment chacun de nous peut-il contribuer à la protection de la cistude et de la biodiversité en général ?
Eh bien, ça peut être que par des petits gestes, par exemple, éviter de mettre des produits polluants dans l'eau, trier ses déchets, ramasser des déchets, ça peut être, de toute façon, un peu les pollutions causées par l'être humain. Ça va être, faire des donations sur des associations qui vont être pour la biodiversité, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi participer en tant que bénévole à ces associations, parce qu'on a une sous-association à la SHNA, ça s'appelle le GRAB, donc c'est le groupe reptile amphibien de Bourgogne, donc c'est que des bénévoles avec des salariés de la SHNA qui vont aller étudier les bestioles, faire du suivi, etc., que ce soit amphibien, reptile, et voilà. Donc ça peut être des petites choses comme ça, donc faire attention un peu à ce qui nous entoure, ou faire des fauges un peu plus tardives, des trucs comme ça, mais ça commence à rentrer un peu plus dans la tête des gens maintenant, parce qu'ils se rendent compte qu'ils voient moins d'oiseaux, moins d'autres papillons, des insectes en l'air, ou des trucs comme ça, donc des insectes volants. Donc voilà, ouais. Les gens commencent à un peu plus se rendre compte que la biodiversité a tendance à un peu disparaître autour de nous, et que c'est quand même pas mal d'avoir des bestioles.
Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune souhaitant travailler dans la biologie ?
Alors, ça va être s'intéresser grandement à ce qui l'entoure. On va dire, au niveau des recruteurs après, ça va être d'avoir pas mal d'expérience pro, que ce soit du bénévolat ou des petits boulots, ça marche aussi. Ouais. C'est déjà pas mal. Déjà, franchir le cap d'aller faire du bénévolat, c'est quand même pas mal. Parce que déjà, c'est enrichissant pour la personne qui fait le bénévolat. Et ça participe un peu à, on va dire, un travail un peu plus grand que soi.
Est-ce que vous avez un message du coup à passer durant la conférence qu'il va y avoir tout à l'heure ?
Eh bien, c'est soyez curieux. N'hésitez pas à aller regarder la bestiole en papillon ou autre, à regarder un peu dans le détail, comment il fonctionne, on va dire, comment il vit. N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur le monde qui les entoure, que ce soit via les médias, via des conférences ou des interviews à la radio. Donc voilà, ne pas hésiter à sortir un peu des sentiers battus et d'aller voir un peu ce qui se passe autour. Soyez curieux, quoi, en fait.
Et enfin, participez-vous régulièrement à des conférences dans des lycées et qu'est-ce qui vous semble important de transmettre ?
Eh bien là, en conférence dans les lycées, ça va être ma première. Ça va être justement transmettre des savoirs. Le patrimoine, enfin, les bestioles qu'on vous montre lors des conférences, que ce soit au niveau de la cistude ou l'astronomie, par le collègue, c'est un peu votre patrimoine aussi à vous, donc ça fait partie du commun, on va dire, c'est notre patrimoine à nous tous, donc c'est pas mal de savoir comment ça fonctionne, et de savoir ce qu'on a aussi, on va dire, en collectif. Donc si on ne le protège pas, nos générations suivantes, ils ne les auront pas, ils iront voir ça dans des musées, donc bon, pas terrible quoi, c'est mieux de savoir que c'est vivant, c'est plus sympa. Voilà.
D'accord, merci beaucoup.
De rien.
En conclusion, alors que nous faisons face à des enjeux environnementaux croissants, le travail des chercheurs et chercheuses devient plus crucial que jamais. Il nous aide à mieux comprendre notre monde et à trouver des solutions durables pour l'avenir. Nous vous remercions, Monsieur Mollet, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cette fête de la science au sein du lycée Raoul Follereau. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés sur BAC FM. Au revoir.
Au revoir.